Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Violette Spielboot, députée de la 9e circonscription du Nord, candidate Ensemble pour la République à la mairie de Lille. Vous avez été avec le député La France Insoumise, Paul Vannier, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux enfants, co-auteur de la proposition de loi pour renforcer et lutter contre les violences en milieu scolaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Orient. Vous revenez sur ce travail transpartisan, mais aussi sur les résistances institutionnelles, sur les rencontres aussi qui vous ont marqué lors de cette commission dans votre ouvrage « Silence brisé, violences à l'école » publié chez Stock. Nous y reviendrons, bien entendu. D'abord, cette campagne des municipales, campagne marquée par des violences, par le meurtre du militant nationaliste Quentin Derenque, par des membres de l'ultra-gauche. LFI, la France Insoumise, ne cache pas ses liens avec le groupuscule Le Dissous, la Jeune Garde. LFI et le Rassemblement National, aujourd'hui, sont-ils coupables de connivence encore avec des groupuscules violents?
D'abord, je crois que dans un moment de deuil comme celui-là, quand un jeune homme a été battu à mort, et effectivement, dans un cadre politique, c'est vrai, on doit prendre du recul, on doit ne pas céder à la rapidité de déclaration qui mélange tout et qui attise les haines les uns contre les autres. Et malheureusement, le spectacle du débat politique depuis le décès du jeune Quentin est très triste. Et moi, je fais attention à ne pas faire des amalgames ou à ne pas considérer que certains ont des responsabilités directes dans ce qui est aujourd'hui un meurtre. Il y a une enquête judiciaire, il faut respecter le temps de la justice et il faut regarder aussi un peu avec froideur ce qui se passe aujourd'hui en politique. Vous avez raison, bien sûr. Les groupuscules d'extrême droite et comme ceux qui ont manifesté en instrumentalisant la mort de Quentin avec des saluts néo-nazis samedi à Lyon utilisent la violence et la haine de l'autre pour promouvoir leurs idées. Il faut combattre ça.
Sachant que les organisateurs avaient appelé à une marche apolitique et sans violence.
Voilà, et les parents le souhaitaient aussi et ne souhaitaient pas que la mort de leur fils soit instrumentalisée. On a vu malheureusement des dérives très graves et il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une entorse aux valeurs républicaines dans une manifestation ou ailleurs, l'État porte plainte et qu'on ne laisse pas ces débordements avoir lieu. Puis de l'autre côté, on a vu les déclarations de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de certains de ses lieutenants qui font comme s'ils n'avaient aucun rapport avec la Jeune Garde, ce groupuscule d'extrême gauche qui lui aussi prône la violence.
Qui a été fondé en 2018 par Raphaël Arnaud, puis dissous en 2025.
Voilà, donc je crois que là aussi, il faut que la France Insoumise fasse le ménage. On ne peut pas faire confiance à des organisations politiques qui ne dénoncent pas toute forme de violence, quelles que soient les idées politiques que la personne défend.
Que la France Insoumise fasse le ménage, ça veut dire que Raphaël Arnaud doit quitter les bancs de l'Assemblée nationale. Et vous, êtes-vous gêné de siéger à ses côtés, en tous les cas dans l'hémicycle?
Vous savez, quand un élu de la République, un parlementaire, est condamné par la justice, qu'il paye sa peine, dans le droit français aujourd'hui, il n'est pas inéligible s'il n'a pas eu cette condamnation et il ne doit donc pas quitter la responsabilité qu'il a. C'est plutôt une question morale qu'institutionnelle. Sur le plan moral, je crois que quelqu'un comme Raphaël Arnaud, qui a toujours prôné la violence, qui a été condamné pour cela, ne devrait pas se présenter pour être député, ou que la France Insoumise ne devrait pas tout faire pour investir ce type de candidat.
Et maintenant qu'il l'est, après ce qui s'est passé à Lyon,
Je crois que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai pas de leçon de morale à tel parti, à donner à tel ou tel parti. On a eu le même cas de conscience quand on a évoqué le sujet d'Adrien Quatennens, qui a été condamné pour des violences conjugales. Je crois que l'honnêteté envers les électeurs, c'est au moment de l'élection, déjà de ne pas cacher lorsqu'il y a eu un délit, et surtout que des personnes qui ne sont pas exemplaires aujourd'hui ne considèrent pas qu'ils sont légitimes à se représenter à une élection et qu'un parti ne les légitime pas non plus dans ce sens.
Raphaël Arnaud, qui avait été condamné avant son élection, cette condamnation n'avait pas été inscrite sur son casier judiciaire. Son casier judiciaire reste vierge, mais en dehors de cela, seriez-vous favorable à ce que les candidats, les élus, que ce soit lors des municipales ou lors des législatives, aient un casier judiciaire vierge exigé ?
Je crois que c'est une vraie question aujourd'hui pour le fonctionnement de notre démocratie, parce qu'on a vu, quel que soit le groupe politique, hein, qu'il peut y avoir des situations comme celle-là qui posent question. Moi, je n'ai pas un avis totalement arrêté sur le sujet, parce que je crois aussi à la rédemption, au pardon de la société lorsqu'on a purgé sa peine. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui représenter d'autres personnes si on n'a pas été honnête et transparent sur son passé et sur ses convictions. Et donc, lorsqu'il y a eu un délit et qu'il n'est pas public et que les électeurs votent pour la personne, bien là, il y a peut-être tromperie sur le représentant qu'on va élire. C'est surtout ces questions-là qu'il faut se poser. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir des élus qui sont exemplaires, qui n'ont pas été condamnés par la justice. Et je crois que c'est au parti aussi, en termes d'honorabilité de leur candidat, d'être vigilant.
On l'entend à travers votre propos. Hein. Ce qui compte, c'est l'honnêteté vis-à-vis des électeurs, avec ou sans casier judiciaire vierge. Il faut que les candidats se présentent tels qu'ils sont et avec leur passé connu. C'est en substance ce que vous dites. Votre mission sur les violences faites aux enfants après l'affaire Bétaram, cet établissement scolaire où de nombreux sévices se sont produits sur des élèves. Je rappelle que vous êtes la co-auteure de la proposition de loi pour renforcer et lutter contre les violences en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que cette mission a changé dans votre manière de faire et de percevoir la politique ?
D'abord, elle a confirmé des convictions, c'est que lorsqu'on est parlementaire, avant de travailler sur le juridique, les institutions, le technique, comme parfois le système nous y pousse, et qu'on est responsable d'une commission d'enquête, il faut en premier écouter les gens, écouter les victimes. C'est ce que nous avons fait avec Paul Vanier dès le début de cette commission d'enquête, en faisant une table ronde avec les victimes, en écoutant leurs souffrances, et forcément, on a été, lui comme moi, très très bouleversé par ces témoignages, et puis en allant sur le terrain, à la rencontre à la fois de victimes, mais aussi de lanceurs d'alerte qui ont été méprisés par le système français pendant des années. Donc l'écoute, c'est plutôt quelque chose que j'ai dans mon ADN, mais je crois que là, on a démontré qu'il fallait mettre en priorité la parole et la croyance de la parole de personnes qui ont souffert des défaillances de l'État français, et en second lieu, l'organisation du système et de voir comment on peut le corriger.
Exactement.
Et puis après, par rapport à votre question, ce que ça a changé dans ma vie, c'est la façon de travailler avec les collègues d'autres groupes politiques.
Paul Vanier, qui est député de la France Insoumise.
Voilà, oui, ça a changé des choses parce que j'ai été porte-parole du groupe Ensemble pour la République pendant 2 ans, de 2022 à 2024. J'ai été souvent le fer de lance des dénonciations de toutes les failles de la France Insoumise que je partage encore aujourd'hui, hein, sur les complaisances avec l'antisémitisme, sur l'incitation au chaos et à la violence dans notre pays. Mais aujourd'hui, je considère qu'on peut travailler avec certains élus de ces groupes politiques auxquels on est très opposés sur des thématiques, en mettant de côté nos idéologies, même si on se combat mutuellement, et en se rassemblant sur une cause qui est celle de la protection de l'enfance. On l'a démontré avec sérieux, confiance et honnêteté mutuelle avec Paul Vanier. Et ça, oui, ça a changé ma façon de peut-être ne pas mettre tout le monde dans le même sac et de considérer chaque élu avec ses compétences et son engagement propre.
Et vous le dites dans votre ouvrage « Silence brisé, violence à l'école » chez Stock, vous aviez des a priori sur Paul Vanier, vous le voyiez comme un être rigide, sûr de lui, autoritaire. Vous avez découvert un homme qui finalement a su écouter les victimes et vous avez travaillé en bonne intelligence avec lui et vous avez été particulièrement heurté par les propos, parfois l'absence de propos, de l'ancien Premier ministre François Bayrou.
Je crois que quand on est face à des victimes qui ont été victimes de violences psychologiques, physiques, de tortures, de violences sexuelles, on a beaucoup d'humilité face à ce qui s'est passé, face à la responsabilité de l'État qui n'a jamais été assumée et pas encore aujourd'hui, puisque ni le président de la République, ni les premiers ministres successifs n'ont aujourd'hui pris la parole sur ce sujet des violences dans les écoles pendant des années, je pense à Bétaram mais aussi à Riaumont dans ma région.
Vous en parlez également dans votre ouvrage.
Donc oui, je suis dure là-dessus parce que je pense que le premier pas vers la réparation pour une victime de violence, c'est la reconnaissance par l'État français, par le système qui est censé protéger les enfants de ces souffrances et qu'elles ont vraiment existé. Donc on le fait un peu, Paul et moi, par notre parole, par notre combat pour porter leur voix, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que l'article 1 de notre proposition de loi est d'abord un sujet de reconnaissance des victimes et d'un premier pas vers cette réparation dont elles ont tant besoin encore aujourd'hui.
Et vous, Violette Spielboot, qui êtes candidate à l'élection municipale à Lille, candidate Ensemble pour la République, quelles sont les prérogatives d'un maire face à ce type de tragédie? Comment un maire, par exemple, peut encourager à libérer la parole? Qu'est-ce qu'il peut faire?
D'abord, on le voit avec le scandale du périscolaire en ce moment à Paris, le rôle du maire est très important parce que au-delà du temps scolaire qui est sous responsabilité de l'éducation nationale et de l'enseignement privé pour les établissements sous contrat, eh bien, il y a le temps périscolaire, le temps des animations dans les centres sociaux, le temps des loisirs, des départs en vacances et de nombreuses organisations sont sous la responsabilité des maires. Donc c'est vrai que dans ma campagne municipale et dans mon programme, on a travaillé ce sujet-là avec à la fois des parents d'élèves et des professionnels de santé, des professionnels de la protection de l'enfance. Et il est évident que placer la lutte contre toute forme de violence aux enfants au cœur du projet municipal, c'est une priorité. Ça se fait par le contrôle de l'honorabilité pour tous les recrutements et régulièrement au sein du personnel municipal en contact avec des enfants. Ça va aller des agents de cantine en temps périscolaire au personnel de nettoyage dans les écoles maternelles, élémentaires. Et puis ça va aller aussi sur tous les temps de l'animation sportive, culturelle. Il y a tant de moments où on est en contact plus ou moins avec des enfants et il faut que ces temps-là soient sécurisés pour les parents. Donc l'honorabilité, la formation du personnel municipal. Quand on est maire de Lille, on dirige 6000 agents municipaux. Une grande partie sont en contact avec des enfants et des adolescents. Il faut donc là aussi que le personnel soit formé à la détection, à la dénonciation de violence. Est-ce qu'on fait une information préoccupante auprès du conseil départemental quand c'est une violence intrafamiliale ou est-ce qu'on fait un article 40, une dénonciation auprès du procureur de la République quand c'est un adulte qui fait une violence sur un enfant? Tout ça pour bien le faire vite, protéger vite l'enfant, il faut être bien formé.
Et vous entendez donner davantage de responsabilités aux élus d'opposition. Est-ce que cette volonté, elle émane notamment du travail que vous avez pu mener avec Paul Vannier, qui est, je le rappelle, député LFI, ou est-ce que vous entendez également vous rejoindre sur des valeurs fondamentales transpartisanes?
C'est plutôt dans mon programme municipal une question de gouvernance. Mmh. On voit aujourd'hui une assemblée qui est très divisée, qui représente la France avec des groupes où il n'y a pas vraiment de majorité et où dans le fonctionnement de l'institution et de la gouvernance, il y a au bureau de l'Assemblée nationale, dans les vice-présidences, à la commission des finances, des responsables de l'opposition. Et bien de la même façon, si demain, maire de Lille, j'ai plusieurs groupes d'opposition, 3 ou 4 groupes d'opposition, quels qu'ils soient, nous avons décidé avec mon équipe de reconnaître leur rôle d'élu dans ce fonctionnement institutionnel de la mairie, parce que vous savez, un maire, ça peut devenir très autocratique par une majorité très large, une prime majoritaire, qui fait que finalement les oppositions peuvent ne servir à rien. J'en ai l'expérience.
Et vous pensez à une personne, et vous pensez notamment à Martine Aubry, de qui vous avez été proche et la rupture a été douloureuse.
Elle a été progressive. J'ai travaillé 7 ans à la SNCF entre le moment où j'ai quitté la ville de Lille et où j'ai pris ma première candidature pour être maire de Lille avec mon équipe Faire Respirer Lille. Donc l'important, c'est que finalement tous les électeurs se reconnaissent dans une gouvernance qui soit une gouvernance de concorde et de respect mutuel. Je crois que c'est surtout ça, après cette commission d'enquête qui me revient des gens que je croise, c'est vous êtes capable de travailler avec les autres et de les respecter. Un peu d'apaisement, moins de haine, c'est ça que je veux en
pratique. Un peu d'apaisement, moins de haine, avec une campagne qui a tout de même une tonalité bien particulière cette année. Les propos, par exemple, de la candidate Ensemble pour la République à Marseille, Martine Vassal, pour qui les principales valeurs sont travail, famille, patrie. C'est plus qu'une maladresse. Qu'est-ce que cela nous dit de l'état de la société aujourd'hui?
Je crois qu'il y a eu, il y a eu des propos très malheureux, des dérives dans des déclarations de certains récemment, dans justement ce climat lié aux violences en politique, l'extrême gauche, l'extrême droite, les justifications de chacun. Je le disais, il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut rester droit dans ses valeurs. Moi, je crois que je suis très claire. L'attachement aux valeurs de la République, à l'humanisme, aux valeurs européennes, c'est ça qui nous rassemble à Faire Respirer Lille dans ma campagne municipale, avec des gens qui sont globalement du centre, mais qui sont aussi des personnes très engagées à gauche, qui ont été déçues du Parti Socialiste et des dérives de son fonctionnement sur le territoire. D'autres qui sont à droite, même adhérents aux Républicains, et qui aujourd'hui, parce qu'ils sont avec moi, sont exclus des Républicains. Tout ça n'a aucun sens pour les citoyens lillois, et c'est partout la même chose en France. Ils veulent un maire qui respecte tous les électeurs Et même, je le dis, je respecte des électeurs qui sont d'extrême droite ou qui sont d'extrême gauche. J'essaie de comprendre pourquoi ils sont allés vers ces partis extrêmes.
Cette campagne des municipales se déroule durant un moment particulier pour les musulmans qui pratiquent le mois du Ramadan en ce moment, pour les chrétiens qui pratiquent le carême. Si on pense aux musulmans par exemple, est-ce un mois pour vous davantage propice au dialogue avec cette composante de la population lors d'iftar, de dîner, de rupture du jeûne?
Alors d'abord, je peux souhaiter à chacun de la religion musulmane un bon Ramadan, parce que c'est une période effectivement de recentrage sur la famille et les valeurs et les croyances que l'on partage. Après moi,
et un bon carême pour les chrétiens également.
Voilà, un bon carême pour les chrétiens. Mais comme vous me posez la question sur le Ramadan et ses fêtes familiales, alors je vais être invitée. Quand je suis invitée dans une fête cultuelle ou un rassemblement cultuel quel qu'il soit, j'y viens avec grand plaisir. Ça me permet de mieux dialoguer, de comprendre les problématiques de l'actualité et donc d'avoir des échanges qui sont très intéressants pour la future maire de Lille que je veux être. Après, c'est vrai que je fais attention en campagne. Je ne fais pas de clientélisme lié aux religions. Je ne vais pas, comme certains, aller m'adresser spécifiquement à une communauté. Je crois qu'être maire, c'est rassembler avec une laïcité chevillée au corps qui permet donc à chaque religion d'être pratiquée en toute sécurité, en toute liberté. C'est ça la laïcité dans notre pays et je m'en porterai garante en tant que maire. Et donc j'irai bien volontiers chez les Lillois qui m'inviteront pour fêter la fin du Ramadan.
Et c'est pour cela que je parlais de composante de la population et non de communauté. Merci beaucoup Violette Spielboot, vous êtes députée de la 9e circonscription du Nord, candidate Ensemble pour la République à la mairie de Lille. Vous avez été avec le député Alexis Paul Vanier, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux enfants et co-auteur de la proposition de loi, un texte pour renforcer et lutter contre les violences en milieu scolaire. Et vous revenez sur ce travail transpartisan dans votre ouvrage « Silence brisé, violences à l'école », un ouvrage aux éditions Stock. Merci beaucoup, Violette Spielboot. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire